Arrêtez. Écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre. Pour le moment, tu es à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre.
Bonsoir, et le CD des jingles ne marchait pas, donc vous avez entendu notre formidable jingle de Faut que ça sache, mais c'est bien l'heure du Canu Info, il est 19h, passé de 2 minutes, et ce soir on va parler...
C'est la grève générale.
Ouais.
C'est pas encore tout à fait la grève générale, mais ça y va très vite.
Alors, de quoi va-t-on parler ce soir?
De grève. Après quand même un peu de convergence des luttes, hein, pour changer.
Ensuite, on aura Nicolas Hulot qui voudrait bien ne pas recevoir de leçons des Allemands et des Allemandes.
Colère égale action, changement de présidence à Act Up.
Ensuite, on va parler mineurs isolés et la nécessité de se bouger en solidarité.
On va parler Notre-Dame-des-Landes et la nécessité de, encore une fois, défendre la ZAD.
Et ensuite, on parlera horloge, timing et avance. Et on touchera à la fin de ce Canu Info. Alors,
l'heure est à la grève dans tous les secteurs, un peu partout en France. Et entre autres aussi de manière locale aux alentours d'ici. Alors, on a piqué à Rebellion une petite revue de presse sur toutes les mobilisations en cours et à venir. Le printemps 2018, ça va péter. À la SNCF, depuis avant-hier, une grève longue à la SNCF avec 2 jours de débrayage tous les 5 jours. Bon, on a compris, on a beaucoup entendu répéter cette histoire. A débuté lundi 2 avril au soir contre la réforme de l'entreprise publique voulue par le gouvernement. Le mouvement est prévu jusqu'au 28 juin. Mais la direction de la SNCF utilise de sales techniques de briseurs de grève. Ces cadres, des cadres et des agents de sécurité SNCF sont mobilisés pour remplacer les grévistes, pour conduire des trains, pour faire des trucs qui sont pas vraiment, que théoriquement ils ne savent pas vraiment faire. Des instructions sont données pour faire payer les grévistes. Alors des sortes de manières de calculer les jours de grève qui sont vraiment un peu dégueulasses, un peu à la limite de la légalité. En tout cas, manifestation, on va revenir dessus, manifestation hier, manifestation aujourd'hui. Et pour le 13 avril, ça c'est uniquement un appel local, à 14h, rendez-vous à la gare de Perrache pour converger avec les cheminots. Manifestation jusqu'au conseil régional où chaque secteur et établissement présent portera ses revendications. Ce n'est pas une initiative de soutien aux cheminots, ils y tiennent, mais une initiative qui propose le rassemblement de plusieurs luttes.
Et alors, si votre train est en retard, ce ne sera pas forcément suite au mouvement de grève des cheminots, mais ce sera aussi, ou peut-être, grâce aux grévistes d'Enedis. Enedis, on se souvient, c'est ex-ERDF, et on se souvient pour encore plus loin, ex-EDF. Le ton est donné, la FNME CGT appelle à la grève à partir du 3 avril jusqu'au 28 juin, qui pourra être... alors, les mouvements pour les actions pourront être communes, les journées d'action communes avec les cheminots. Ils réclament, je cite, un nouveau service public de l'électricité et du gaz, la fin de la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz et un statut de l'énergéticien pour l'ensemble des salariés qui y travaillent. Du côté des actions prévues, des baisses de production dans les centrales électriques et le mieux est c'est les actions qu'on préfère. Des coupures ciblées vers des industriels, notamment ceux qui licencient les salariés ou qui criminalisent l'action syndicale. Ça risque de faire un gros paquet d'industriels. La CGT Mine, de son côté, prévient, enfin aussi, mais elle prévient, pardon, en plus, qu'elle a pour but de peser sur l'économie du pays avec un cadencement hebdomadaire d'actions de grève et d'actions d'intervention sur l'outil de travail.
Les éboueurs, les fédérations CGT des transports et des services publics ont lancé un appel commun à la grève dans l'ensemble de la filière déchets à partir d'hier, donc le 3 avril, pour revendiquer la création d'un service public national des déchets. Le mouvement devrait toucher notamment Paris et la région parisienne, Marseille, Montpellier, ainsi que l'Est et le Nord. Donc on voit bien dans ces mouvements d'appel le besoin d'un service public national. Et l'objectif est la reconnaissance de la pénibilité dans ce secteur aussi, en élargissant à l'ensemble des salariés la possibilité d'un départ anticipé de 5 ans à taux plein pour tous et de 10 ans pour les métiers exposés à l'insalubrité et la pénibilité, donc les agents de tri, le ramassage des ordures, ainsi qu'une réduction du temps de travail. La collecte des déchets est initialement une compétence publique, ce qui a été rappelé par Sébastien Cravero, animateur du collectif Filière Collecte et Traitement des Déchets de la Fédération CGT des Services Publics Territoriaux. Mais plus de la moitié relève aujourd'hui du privé via des délégations de services publics entraînant un dumping social. Pour rappel, le dumping social, c'est une pratique visant à abaisser les coûts de production en abaissant le coût de la main-d'œuvre. Donc il y a un dumping social entre entreprises et des conditions de travail qui se dégradent aussi bien dans le public que dans le privé.
Aujourd'hui, c'était la grève contre les projets de loi sur l'asile et l'immigration. Alors, depuis plusieurs mois, l'adoption de textes relatifs aux droits d'asile et à l'immigration s'accélère. Et ces textes ont été précédés de circulaires qui sont succédés depuis la fin de l'année 2017, poursuivant un objectif commun, plus contrôler, plus trier, plus éloigner les étrangers et étrangères indésirables, mais c'est-à-dire en gros les étrangers et étrangères qui ne sont pas français et françaises. Le 21 février dernier, déjà, l'OFPRA et la CNDA s'étaient mis en grève. Et bien, contre ces projets de loi, tous et toutes les salariés du secteur associatif et social étaient appelés à la grève pour aujourd'hui, mercredi 4 avril.
Unité syndicale de rigueur, 10 syndicats appellent à la grève chez Air France. 2 jours d'action sont prévus. La première, c'était hier, c'était le 3 avril. Et le 7 avril, les salariés réclament que le patron paye sa tournée et augmente tout le monde de 6%, un minimum, devrais-je dire. Du côté de Carrefour, les deux principes. Pau syndicat appelle à la grève pour contrer le plan social qui s'annonce. Plus de 2400 postes sont prévus. La plupart de ces postes concernent les ex-employés de DIA, on parle de 2100 personnes, que Carrefour avait racheté il y a 2-3 ans. Un petit rappel, tous les magasins DIA de l'Hexagone étaient passés sous l'enseigne Carrefour City, entre parenthèses bien plus cher. Bref, Carrefour en avait tellement racheté que même l'autorité de la concurrence avait forcé le groupe à en revendre à Casino pour éviter une situation de monopole. Tout ça pour illustrer à quel point ils n'ont absolument rien à foutre des derniers maillons de la chaîne. Parce que soit, alors du côté des stratèges du groupe, on a misé sur faire couler les magasins pour faire couler la concurrence, soit on s'est joué de l'avenir de plus de 2000 personnes comme on joue au poker. Bref, la grève
continue.
Chez les avocats, avocates maintenant hier, donc mardi 3 avril, jour de grève dans les tribunaux contre la réforme de la justice, les magistrates et les avocates contestent le remplacement dans certaines procédures des juges par des algorithmes et des robots qui sont franchement beaucoup plus efficaces. Mais bon, la restriction de l'accès à la justice pour les victimes et les personnes les plus fragilisées, ainsi que la suppression de nombreux tribunaux et des audiences en visioconférence à l'autre bout de la France. Sans concertation avec les professionnels de la justice, le gouvernement sollicite une large habilitation à légiférer par ordonnance. Donc légiférer par ordonnance, ça veut dire sans débat parlementaire, sans que les mesures exactes soient définies. Donc prochaine grève le 11 avril du côté des avocates et la prochaine.
Et après, aux urgences psychiatriques du Vinatier, la grève a déjà lieu, ça date depuis le vendredi 30 mars, avec le soutien des syndicats CGT et FO. Manque de personnel, manque de moyens, manque de lits, permettant une prise en charge correcte des patients, conditions d'accueil et d'hospitalisation déplorables, dégradation incessante de la qualité des soins, déni institutionnel des conditions de travail. Ça, c'est les urgences psychiatriques. La grève est donc reconductible depuis le vendredi 30 mars.
Et pour finir, on avait déjà parlé il y a deux semaines dans le Canu Info, mais c'est au foyer de Ville Échappée à Condrieux, la grève continue. Donc les salariés ont manifesté hier, mardi 3 avril, devant l'ARS, donc l'Agence Régionale de Santé à Lyon. Et depuis donc le 2 mars, un collectif de salariés de la Sauvegarde 69 lutte et résiste face aux dégradations de leurs conditions de travail contre une direction sans considération. Donc les salariés revendiquent une nouvelle politique salariale respectueuse de leur engagement professionnel, donc plus de congés, augmentation de salaire, des formations, des CDD engagés sur le long terme. Donc une cagnotte de grève aussi avait été ouverte pour soutenir les grévistes qui ne lâcheront pas, à retrouver sur lepotcommun.fr.
La tactique de Macron, c'était visiblement d'attaquer tout le monde en même temps. Et bien, peut-être que là, peut-être que c'est vraiment en train de lui retomber sur la gueule.
Et bien, on va continuer à parler convergence des luttes. Et contrairement à ce que déclare la ministre de l'Enseignement supérieur à propos de cette fameuse convergence des luttes, eh bien, il ne s'agirait pas que d'un fantasme pour une poignée d'illuminés. C'est ce qu'elle avait déclaré sur les ondes de je ne sais plus quelle radio. En tout cas, pas la nôtre, hein, vous imaginez. Le mouvement des facs s'étoffe. Une dizaine de facs sont bloquées en France, sans compter des amphis occupés comme à Lyon. Et ce n'est qu'un début. À Lyon, hier, à la suite de la manif des cheminots, un cortège prend une autre route pour aller occuper l'amphi présidentiel de la fac de Lyon, le chic amphi présidentiel de la fac de Lyon 2 sur les quais, stoppant au passage une conférence sur l'histoire italienne.
Voilà. Dont les participants ont plutôt encouragé les étudiants qui étaient en train d'envahir l'amphi.
Et suite à ça, une AG de 200 personnes est lancée et vote l'occupation pour une semaine. On notera parmi les soutiens la CGT de l'ENS de Lyon qui apporte son soutien, je cite, sans réserve aux occupants de l'amphi et souhaite également, dans son courriel adressé aux occupants et occupantes, encourage le personnel étudiant et étudiante de l'ENS de s'y rendre. Aujourd'hui, les étudiants et étudiantes se sont de nouveau joints à la manif des cheminots. 1000 personnes ont défilé dans la rue. La manif s'est finie à 16h. On a appris dans cette manif que, il a été question que de la privatisation du service public, en tout cas de la gestion du rail dans l'Ouest lyonnais, qui devait être confié à un gestionnaire privé. Tout ça continue dans un chouette mouvement.
Et vous retrouverez bientôt un reportage de cette manifestation dans un des prochains Canu Info de la semaine, sûrement.
Non, mais pas de jingle. Hein. Allez-y.
Okay, pas de petite musique. Alors, c'est moi qui continue. C'est moi qui continue avec Nicolas Hulot, qui, figurez-vous, a rencontré la semaine dernière son homologue allemande, Svenja Schulze. Et Svenja Schulze, elle trouvait qu'elle avait des petites choses à redire sur la gestion par la France de la politique énergétique, et en particulier des centrales nucléaires, et en particulier des deux centrales nucléaires qui sont les plus proches de la frontière, la centrale de Fessenheim et celle de Cattenom. Alors, il semble que les Allemands ne sont pas au courant de cette histoire qu'on connaît bien en France, des nuages de pollution nucléaire qui contournent les frontières. Eux, les Allemands, on dirait qu'ils ont la trouille, bien qu'il y ait une frontière quoi, qui empêcherait, en cas d'accident, de manière évidente, le nucléaire de passer de la France en Allemagne. Mais non, Svenja Schulze, elle ne croit pas à ça. Alors, il faut quand même bien dire qu'en Allemagne, a priori, le nucléaire, c'est quand même de plus en plus de l'histoire ancienne, puisque la politique de sortie du nucléaire a commencé en Allemagne il y a déjà plus de 15 ans, avec le soutien de la population. Quand on dit avec le soutien de la population, c'est qu'il y a plus de 80% des Allemands qui pensent que le nucléaire, c'est bon, il faut y dégager.
Pas mal.
Au moment des dernières élections, aucun parti politique n'avait inscrit le retour ou le maintien du nucléaire dans son programme électoral. On parle de l'Allemagne, hein, c'est quand même pas tout à fait pareil en France. Ou pardon, non, je ne veux pas encore dire du mal de Mélenchon. Tiens, si, Mélenchon, finalement, s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment plus trop de grand monde qui votait pour les partis écolos, surtout aux dernières présidentielles, et qu'il y avait peut-être du monde à récupérer. Alors tout d'un coup, il était contre le nucléaire, en sachant que quelques mois plus tôt, il avait plutôt misé sur les salariés du nucléaire, donc il était plutôt pour le nucléaire. Bon, Mélenchon va certainement nous sauver de plein de choses, mais pas de celle-là, visiblement. En tout cas, on n'est pas là pour parler de lui. On était là pour parler du nucléaire en Allemagne. Et donc, à l'heure qu'il est, il reste une poignée de centrales qui fonctionnent en Allemagne, qui produisent les centrales nucléaires. La part du nucléaire dans l'énergie produite en Allemagne, c'est 14%. Les centrales nucléaires qui sont encore ouvertes en Allemagne produisent 14% de l'électricité du pays. Donc, 15 ans après cette décision d'abandon de l'atome, les Allemands ne produisent déjà plus de 30% de leur énergie avec du renouvelable. L'objectif est d'atteindre 80% d'ici à 2050.
C'est ça, parce que tout le monde avait, à moi, c'était un peu moqué de l'Allemagne, en tout cas du côté de la France, là, en disant « Ah oui, mais l'Allemagne veut quitter le nucléaire, mais regardez, ils relancent les usines à charbon à plein régime. »
Il y a effectivement ce problème qui n'est pas encore réglé. En tout cas, l'Allemagne, parce que ce qu'on avait aussi dit en France, c'est « Ah oui, l'Allemagne, ils ferment leur centrale nucléaire, bah, vous allez voir, ils vont être obligés d'acheter de l'électricité à la France. » Eh bien, alors, pour le coup, pas tellement, c'est plutôt la France qui continue à acheter de l'électricité à l'Allemagne. Et le résultat de cette politique de transition énergétique en Allemagne est un effondrement du prix de production de l'électricité. Mais alors, pour autant, pas un effondrement qui se répercute sur les factures, ni pour les ménages, ni pour les entreprises. Puisque, alors d'une part, il y a des nouvelles taxes qui sont mises et qui permettent de subventionner des investissements à long terme sur l'énergie renouvelable, en particulier éolienne, mais pas que. Et surtout, le problème du nucléaire, c'est que le nucléaire, il coûte cher à construire, il coûte cher à utiliser, mais il coûte encore cher une fois qu'on l'a arrêté. C'est-à-dire que là, l'Allemagne est obligée de payer, comme la France sera obligée de payer quand ça arrivera, pour arrêter les centrales, pour démanteler les centrales et pour stocker les déchets, donc pendant des siècles, des dizaines de siècles. Et que ça, en France, bien sûr, on va tous les enterrer à Bure.
Mais non, on va tout mettre sur orbite, tu vas voir.
Ou on va tout mettre sur orbite. Bah non, tous les cas, mettre sur orbite, c'est pas non plus gratos, mais enfin. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que ça coûte de la thune et que ça fait qu'en Allemagne, comme plus tard en France, l'électricité continue à coûter cher aux gens. Parce que, en France, il faut réduire le nucléaire, mais plus on attend, plus ça coûtera cher et encore plus cher pendant longtemps. Mais en tout cas, voilà. Donc pour l'instant, la part des énergies fossiles en Allemagne, et en particulier le charbon, reste effectivement importante, un peu trop importante. L'Allemagne doit encore faire du chemin de ce côté-là. Mais en Allemagne, la différence avec la France, c'est qu'il n'y a aucun Nicolas Hulot qui serait là pour, donner une caution écolo au gouvernement. Bah, disons que justement, eux, ils peuvent avancer parce que le gouvernement allemand, lui, il doit avoir des résultats en termes d'avancée écolo. Le gouvernement français, non. Il suffit qu'il agite Nicolas Hulot devant les caméras. Alors, Nicolas Hulot est bien gentil quand il rencontre la ministre allemande de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sécurité Nucléaire, c'est comme ça qu'elle s'appelle, enfin, qu'est son titre, puisqu'elle s'appelle plutôt Svenja Schulze. Et il dit, Nicolas Hulot, après l'avoir rencontré, « Non mais de toute façon, personne n'a de leçon à donner. Nos deux pays sont dans des transitions énergétiques sans commune mesure, en tout cas historiques, avec des paramètres, des contraintes qui ne sont pas toujours les mêmes. » C'est le moins que l'on puisse dire, dit-il. Mais en tout cas, des ambitions qui sont communes. Alors, sauf qu'il y en a qui donnent les moyens de leurs ambitions un peu plus que d'autres, quand même. Et il faut dire que son homologue, donc cette Svenja Schulze, ce qu'elle voulait surtout, c'était lui parler des centrales de Fessenheim et de Cattenom, qui sont tout près de la frontière allemande, et qui sont toutes les deux vieilles comme Hérode, des centrales qui craquent par toutes les coutures, qui avaient été faites pour tenir 30 ans il y a déjà plus de 40 ans et qui sont encore en route. Bon, bizarrement, l'Allemagne n'a pas la même confiance que les gouvernements français successifs dans la durée sans fin de ces centrales qu'on n'arrête pas de prolonger. J'ai évidemment fait part des inquiétudes de la population allemande à Nicolas Hulot, a indiqué Svenja Schulze, et c'est pourquoi je salue vraiment le fait qu'on aille vers un arrêt le plus rapide possible de la centrale de Fessenheim, puisque c'est ce que Nicolas Hulot lui a promis. J'ai bien sûr aussi parlé de la centrale de Cattenom, donc qui est en Moselle, et notre position est qu'il ne doit y avoir aucun délai supplémentaire, a encore déclaré la ministre allemande. Nous étions d'accord pour dire que les sujets que nous abordons ici sont aussi très importants pour la population allemande à la frontière. Réponse de Nicolas Hulot. Le gouvernement va bien fermer la centrale de Fessenheim, alors dès que l'EPR de Flamanville aura démarré. Donc, dit-il, donc, à la fin de l'année 2018 ou en 2019, enfin ou en 2020 ou en 2025, parce que cette histoire d'EPR de Flamanville, c'est pas qu'on soit impatient de le voir démarrer, mais c'est quand même que il a déjà accumulé quoi, plus de 10 ans de retard, quelque chose comme ça. C'est un chantier un peu dingue et aussi son coût a été multiplié par 3 depuis que le chantier a commencé. Mais à un moment ou un autre, on va démarrer cette gigantesque centrale nucléaire et à ce moment-là, on fermera les vieux machins. En tout cas, le vieux machin de Fessenheim, peut-être pas beaucoup d'autres vieux machins, puisque pour la centrale de Cattenom, Nicolas Hulot a rappelé à Svenja Schulze qu'EDF allait plutôt commencer des travaux de maintenance pour poursuivre sa production pendant encore 10 ans. Si, ça peut être pas difficile.
Mais qui retourne à la télé dans son hélicoptère et il arrête de nous faire chier.
Tu m'étonnes. Nicolas Hulot a ainsi assuré que les deux pays avaient des ambitions très fortes en matière de réduction des gaz à effet de serre, excessivement fortes en termes de développement des énergies renouvelables et pour sortir des énergies fossiles, tout en répétant qu'il y a des contextes très différents. Alors voilà, le boulot de la ministre allemande, en gros, c'est de faire en sorte que l'énergie produite par l'Allemagne soit la plus clean possible. Alors c'est pas miraculeux, c'est pas que hyper bien, en tout cas, il y a du boulot qui est fait. Le boulot de Nicolas Hulot, par contre, c'est surtout de faire passer des pilules. Et alors, sur le nucléaire, on se souvient qu'en novembre dernier, Nicolas Hulot nous avait fait, enfin, avait, en tout cas, s'était acharné à faire passer une pilule un petit peu énorme, puisque en 2015 a été votée une loi de transition énergétique qui prévoyait que la part du nucléaire devait être réduite à 50% en France d'ici 2025. Bon, on se rappelle que l'Allemagne, c'est 0% d'ici. Alors attendez, je ne me rappelle plus la date, mais d'ici très bientôt, doit fermer sa dernière centrale nucléaire, blabla, non, je ne sais plus, mais en 2030, quoi. Alors en France, plutôt 50% en 2025, et là Nicolas Hulot avait annoncé que, en fait, non, alors pas du tout, on n'en arriverait pas du tout là, peut-être qu'on arriverait à 50% en 2030, peut-être, enfin, peut-être pas, voilà, et bien merci Nicolas Hulot.
Alors, un petit quiz, de quel asso ce slogan vient ? Colère égale action.
ACT UP.
Et oui, donc ACT UP Paris, donc pour rappel, c'est une association de lutte contre le sida, issue de la communauté homosexuelle. Ah, dégoûtant. Elle rassemble des séropositives, ah, encore dégoûtant, et des militantes concernées par la maladie. Des réponses politiques qui doivent être apportées à cette épidémie. Vaincre le sida n'est pas du seul ressort de la médecine. Donc ça, c'est la présentation de ACT UP. Et donc, vous voyez, cet été, il y a eu l'énorme succès du film 120 battements par minute. Et l'ancienne équipe dirigeante d'ACT UP a quitté ses fonctions ce samedi 31 mars. Déplorant la transition brutale liée au succès du film. Donc d'une manière, on pourrait le voir de manière positive, et je pense qu'il faut le voir de manière très positive, que d'un coup, depuis cet automne, un nombre important de militantes sont venues rejoindre l'association, et donc ce qui expliquerait une forme de désorganisation administrative de l'équipe et des désaccords de tactique. Donc en fait, ça remue à ACT UP, il y a plein de gens qui veulent s'y investir.
Bah, l'ancienne et qui, visiblement, sont animés par des motivations énormément plus politiques, non ? Ah, pardon. On est actuellement visiblement un petit peu coupé, non ?
Tu disais quoi, pardon ?
Que la nouvelle direction d'ACT UP avait l'air d'être plus dans des revendications politiques que l'ancienne.
Eh bien ça, c'est pas si simple, je pense, d'affirmer ça. T'as trouvé où cette information ?
Je sais pas, je l'ai entendu à plusieurs endroits.
D'accord. Eh bien, En fait, ce que j'ai compris de ce qui s'est passé, c'est que selon l'équipe donc des missionnaires, la vague de nouvelles arrivées est composée donc d'anciennes militantes motivées par les enjeux persistants de la lutte contre le VIH, des jeunes militantes qui sont déjà politisées dans d'autres luttes et des militants novices. En fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a vraiment... Ça en parle dans les médias parce qu'il y a eu un gros buzz du film, mais que c'est une désorganisation comme ça peut avoir lieu dans plein d'assauts quand il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent, et que plein de gens, comme c'est une asso qui est mise sous les feux des projecteurs actuellement, c'est un fouet, elle est médiatisée, mais moi je m'inquiète pas en fait sur la suite et la portée politique de cette association. Et je pense que les gens de l'association, ils vont continuer ce que c'est ACT UP, et c'est ça le plus important. Parce que le nouveau conseil d'administration a exprimé lors de l'Assemblée générale extraordinaire la volonté de revenir aux fondamentaux d'ACT UP Paris dans la lutte contre le VIH. Donc, c'est-à-dire la continuité des travaux actuels et des engagements d'ACT UP Paris sur les problématiques du VIH, SIDA, la transversalité de la lutte contre la maladie. Donc l'épidémie est une épidémie politique. Toutes les lois favorisant la précarité favorisent les contaminations. Donc notamment la nouvelle loi Asile-Immigration, loi de pénalisation des clientes et travailleuses du sexe et droits des détenus, et la reprise des plaidoyers à l'international sur l'accès aux médicaments et au soutien des populations vulnérables, la réappropriation de l'association par les militantes et le soutien à leur action. Donc là, quand on lit ces différentes actions qui vont être très bientôt votées, moi je trouve ça plutôt rassurant sur le fait que ACT UP Paris va continuer à être une asso assez virulente et va pas lâcher l'affaire. Et les présidents sortants déplorent que le travail d'expertise soit relégué au dernier plan, au profit du commentaire permanent de la critique spectacle. Voilà, on peut voir qu'ils s'entre-déchirent, mais dans tous les cas, la lutte continue et elle va être bien menée.
Le 12 avril, c'est-à-dire jeudi de la semaine prochaine, aura lieu un rassemblement en solidarité avec les mineurs isolés et contre la loi Collomb. Alors figurez-vous qu'à Lyon, une bande d'étudiants se penche sur le sort des mineurs isolés et sur ce qu'il y a à faire pour se bouger là-dessus. Et en tout cas, le texte qu'ils ont fait paraître sur Rebellion est hyper bien. Alors, voilà, le texte nous dit être un étranger avant d'être un enfant, c'est ainsi que sont considérés les milliers de jeunes de moins de 18 ans qui arrivent depuis l'étranger jusqu'en Europe pour y trouver un refuge. Ce refuge, la plupart d'entre elles et eux ne le trouveront pas, car si l'État français a le devoir de prendre en charge, c'est-à-dire de loger, de nourrir et de soigner, et aussi d'éduquer, toute mineure étrangère et étrangère arrivée sur le sol français, dans les faits, encore une fois, l'État ne respecte pas ses propres lois, et de loin. Parce que ce que le texte nous détaille pas, mais c'est que l'État français a recours à un sacré nombre de tactiques pour pas se faire chier avec les mineurs isolés étrangers. Il faut aussi dire que le nombre de ces mineurs isolés étrangers a effectivement augmenté dans ces dernières années, et que du coup les gens qui doivent allonger la thune rechignent à allonger la thune, et donc il y a un certain nombre d'associations, c'est un truc qui se fait par département, c'est le département normalement qui doit s'en occuper, il y a un certain nombre d'associations dans chaque département qui ont la tâche de ne pas s'occuper des mineurs isolés étrangers, et du coup de trouver toutes sortes de moyens. Bon, alors là je suis même pas en train de parler des pires horreurs, comme, parce que quand même c'est aussi un sujet qui commence à brasser, et du coup c'est des trucs qu'on entend, des pires horreurs comme dans la vallée de la Roya, ou des gamins qui arrivent d'Italie peuvent se faire choper par les flics français, par exemple, dans la voiture de quelqu'un qui les a pris en stop. Les flics français, je veux dire, c'est des choses qui sont arrivées, par exemple, dans une voiture où était un journaliste de France Culture. C'est pour ça que ce truc a été médiatisé, mais c'était...
Oui, c'est du quotidien, quoi.
C'est ça, en fait, c'est de l'exception. Quotidien. Mais du coup, ce journaliste raconte que dans la voiture où il était, les deux gamins ont été embarqués par les gendarmes et qu'il les a retrouvés deux jours plus tard, que les gendarmes les avaient amenés à la frontière, mais la frontière, c'est, vous voulez dire, au sommet de la montagne, en hiver, les avaient lâchés là, habillés avec trois fois rien et avec des chaussures dégueulasses au milieu de la neige, en leur disant « l'Italie, c'est par là, ciao ». En plein milieu de la nuit, les gendarmes s'étaient barrés. Les gamins, alors, étaient repassés, je ne me rappelle même plus de quel côté ils étaient redescendus, si c'était côté France ou côté Italie. Mais enfin, c'est aussi ça qui se passe dans la vallée de la Roya. À Calais, les flics sont vraiment capables d'aller réveiller des gamins au milieu de la nuit, à coups de pied, à coups de taser, pour les dégager de leur tente, de leur piquer leur tente et de les laisser dehors. Et bon, ça c'est dans les endroits où c'est le plus tendu, où il y en a le plus. Mais ce que font de toute façon tous les départements français, c'est ces fameuses expertises osseuses qui font que quand un gamin arrive et qui dit qu'il a 15 ans et pas de papier, on l'amène voir un toubib qui lui mesure la taille de son poignet et qui lui dit « Ah bah non, bah vous avez 21 ans ». Ou alors, on leur fait subir des interrogatoires où ils doivent raconter leur voyage, tout ça, et on leur dit « Oh là, mais vous racontez votre voyage d'une manière quand même extrêmement mûre, avec beaucoup de maturité, vous ne pouvez pas avoir moins de 18 ans ». C'est vraiment des arguments qui ont été utilisés devant des juges, hein, par les associations qui, dans chaque département, sont chargées d'évaluer, on appelle ça évaluer, les mineurs pour savoir s'ils sont réellement mineurs.
Par exemple, pour revenir sur les tests osseux, ces tests sont tellement aléatoires et peu fiables qu'il y a toute une batterie de médecins qui ont refusé, qui ont dit nous, ne nous demandez pas, on fera pas ça parce que ce truc ne vaut rien. Des fois, les résultats donnent un âge entre 17 et 35 ans, par exemple.
Et alors, pour le coup, il y a certains juges qui ont commencé à ne plus vouloir prendre en compte les tests osseux, mais c'est suite à ça qu'on a ces évaluations psychologiques. Donc, ah bah dis donc, la manière dont tu racontes ta traversée de la Méditerranée avec ton bateau où il y a eu où les trois quarts des gens sont morts avant d'arriver, tu as l'air vraiment très mature sur ce coup-là. Bon, bah certainement, tu n'es pas mineur. Ce qui veut dire que les gamins ne sont pas pris en charge, ni nourris, ni logés, encore moins envoyés à l'école ou habillés. Et par contre, les mêmes gamins, éventuellement, quand ils vont dans des structures d'hébergement qui reçoivent des adultes, là, à ce moment-là, on leur dit « Bah non, nous, on reçoit des adultes ». Donc, ils dorment vraiment, vraiment à la rue. Voilà. Et là, ces étudiants qui organisent ce rassemblement nous disent que par conséquent, ces jeunes qui sont isolés et qui ne touchent aucune allocation se retrouvent à dormir dans la rue jusqu'à ce que les services de protection de l'enfance, et donc à Lyon, l'association qui est chargée de ça, ça s'appelle la MEOMI, jusqu'à ce que ces associations les prennent enfin en considération, en sachant qu'actuellement à Lyon, le délai d'attente pour le premier rendez-vous, donc entre le moment où le gamin demande à être reçu et le moment où il est réellement reçu, premier rendez-vous, on ne parle pas encore du tout du moment où on lui met un toit sur la tête, c'est 2 mois. De toute façon, la MEOMI est en train de se réorganiser dans le sens de faire en sorte que les gamins aient de moins en moins de chances d'être considérés comme mineurs et pris en charge. Face à l'indifférence totale des autorités dites compétentes et censées les prendre en charge, nous vous proposons d'agir tous ensemble pour soutenir ces jeunes, pallier les manquements des pouvoirs publics et montrer notre opposition générale à la politique anti-migratoire de Macron. La métropole étant le centre décisionnel contrôlant les budgets, l'organisation et la politique de la MEOMI, il nous apparaît qu'il faut la viser en priorité. Donc, premier rassemblement, et il parle bien d'un premier rassemblement prévu par les gens qui organisent ça, devant le siège de la métropole, donc c'est 20 rue du Lac, c'est dans le 3e, là, c'est l'immeuble qu'on appelait l'immeuble de la Courlie, enfin, c'est juste la Courlie qui a changé de nom, mais du coup, c'est la métropole. Jeudi 12 avril à midi, pour bien faire comprendre que ce traitement raciste des exilés, et en l'occurrence des mineurs isolés, n'est pas tolérable. Nous appellerons vite à d'autres rassemblements solidaires. Voilà, ils ont déjà un programme, notamment devant la MEOMI. Ça, c'est à côté de Grange Blanche. Et alors voilà, ils disent autrement que, pour rappel, pour soutenir nos copains et copines mineurs, disent-ils, plusieurs choses sont faisables. Donc, offrir un hébergement. Vous pouvez vous montrer solidaire en mettant à leur disposition un lit ou un canapé pour leur permettre de dormir au chaud quelques nuits, en sachant qu'une fois qu'ils sont pris en main et qu'on arrive à les amener chez un avocat ou une avocate, les jeunes obtiennent un hébergement généralement plutôt sous 2 semaines. Ça accélère les choses quand même. L'hébergement donc qui serait proposé par des gens ne dure donc généralement pas plus de 2 semaines et il est modulable de toute façon en fonction de vos possibilités. De plus, le Secours catholique les accueille dans la journée et leur offre le petit déjeuner et le repas de midi. Ça veut dire que même si vous leur offrez votre canapé, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire tout avec eux toute la journée. Deuxièmement, les accompagner dans leur démarche. Alors ça peut aller avec ou indépendamment de cette histoire d'offrir de l'hospitalité. Donc il y en a pour certains rendez-vous juridiques ou médicaux. C'est pas mal s'il y a un adulte. Parfois c'est même obligatoire. Et du coup les gamins gamines ont besoin de personnes qui les accompagnent dans des démarches au quotidien et des fois c'est juste pour les rassurer, des fois c'est juste pour leur expliquer ce qu'un fonctionnaire refuse de dire autrement que très vite avec des mots compliqués, éventuellement juste lire et écrire des informations parce que les gamins ils savent pas toujours lire et écrire, en particulier en français. Et enfin, nous dit ce collectif d'étudiants et étudiantes, participer aux actions, c'est le troisième axe. Il nous paraît important de ne pas se cantonner à un rôle humanitaire que les pouvoirs publics sont bien trop contents de nous voir endosser. Il faut être capable de passer d'une position subie défensive à une attitude active et offensive face aux attaques permanentes du gouvernement. Pour cela, nous en appelons à la participation de tous et toutes aux différentes actions collectives à venir. Bon ben voilà, on trouve cet article sur Rebellion, on trouvera aussi certainement d'autres articles pour appeler à d'autres rassemblements, et sur Rebellion on trouve aussi le moyen de les joindre. Par exemple, si on veut savoir comment on rencontre des mineurs isolés qu'on pourrait potentiellement héberger, potentiellement accompagner dans des démarches, comment on participe aux actions du groupe. Bon, bah, y a un mail hein, qui est mineurs-isolés-lyon@riseup.net. De toute façon, ce mail, vous le retrouverez sur l'article qui est sur rebellion.info, l'article qui s'appelle « Appel à rassemblement en solidarité avec les mineurs isolés et contre la loi Collomb le 12 avril ».
Et nous relayons aujourd'hui l'appel de l'Assemblée des usages face à l'annonce d'expulsion imminente sur la SAT. Donc pour rappel, les assemblées des usages se sont mises en place à l'été 2017 sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Elles regroupent les usagers réguliers de la régulière de la ZAD, habitantes, voisines, paysans, paysannes des alentours, personnes impliquées dans le projet sur place et les différentes composantes du mouvement. Elles se sont données pour but de penser construire la prise en charge collective de ce territoire en cohérence avec les 6 points pour l'avenir de la ZAD. Donc, je lis cet appel. Le 10 février, quelques semaines après l'abandon du projet d'aéroport, des dizaines de milliers de personnes ont une nouvelle fois convergé à Notre-Dame-des-Landes pour enraciner l'avenir de la ZAD. Depuis, les assemblées des usages se sont engagées dans la poursuite concrète de ce projet et en ont posé les bases lors d'une amorce de dialogue avec des représentants du gouvernement. Bouh. Pendant la phase de transition annoncée, une première convention collective globale est proposée par le mouvement sur les terres et habitats privés en charge par le mouvement. Mais le gouvernement menace toujours de mener des opérations d'expulsion des habitats de la ZAD. Une opération mobilisant des milliers de policiers est annoncée aux alentours du lundi 9 février. Nous dénonçons le double jeu du... Février. Eh ben ouais, c'est écrit ça, mais je pense que c'est le lundi 9 avril.
Oui, ça existe, ça.
Il me semble...
lundi 9 février, ça n'existait pas. C'est vraiment le lundi 9 février.
Du coup, c'est le 9 avril, ce qui est cohérent, puisque l'appel est... Du coup, l'Assemblée était hier. C'est pas possible. Et là, on ne fait pas un historique. Donc, c'est pas possible. Donc, une opération mobilisant des milliers de policiers annoncée aux alentours du lundi 9 avril. Mais alors, c'est super, parce que pendant les temps de... Vous voyez, de mobilisation comme ça, c'est la grève générale. Étant donné qu'il faut... il faut un quart de CRS pour à peu près 5 manifestants et que s'il y a des milliers de policiers sur la ZAD, mais où est-ce qu'ils vont demander l'armée européenne ou quoi? Bon, ça n'existe pas l'armée européenne, mais voilà. Nous, donc, je continue ce communiqué, désolé pour la parenthèse. Donc, nous dénonçons le double jeu du gouvernement qui dénonce vouloir une évolution sereine et apaiser la situation d'un côté, tout en planifiant en opération d'expulsion, par ailleurs, illégale. Donc, nous ne pouvons accepter que les habitantes actuelles qui ont préservé ce bocage soient évacuées demain. Nous ne pouvons envisager que les habitats et espaces d'activité qui ont nourri l'expérience de la ZAD et qui jalonnent son devenir soient détruits par une nouvelle opération policière. Nous invitons toutes celles et ceux qui soutiennent l'avenir de la ZAD à s'organiser en conséquence. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas d'expulsion d'habitat ? Donc, ils appellent à différents types de réponses à plusieurs échelles géographiques. Donc, comme pour les mineurs isolés, ouvrez grand les oreilles sur ce que vous pouvez faire de votre côté. Donc, sur la ZAD et juste autour, appel à participer au chantier prévu en avril pour renforcer les lieux de vie et structures d'activité de la ZAD. Appel en cas de démarrage d'opération à venir s'opposer aux expulsions sur la zone même. Nous avons d'ores et déjà décidé collectivement que, hors intervention imminente, les routes de la ZAD doivent rester circulantes pour les besoins des habitantes, des paysannes et des voisines. En cas d'attaque policière, c'est ensemble que nous les bloquerons si nécessaire. Nous demandons au soutien extérieur d'agir de manière concertée à ce sujet. Donc, des espaces d'accueil seront mis en place sur la ZAD et autour. Donc, en gros, si on veut aller soutenir la ZAD, faut pas bloquer de route. Ce qu'ils disent, c'est assez clair. Vraiment,
ils
autour
disent, bloquer les routes qu'ils auront décidé de bloquer, c'est ça que tu...
Non, que tu ils disent, il faut pas bloquer les routes et au moment où ils décident d'en bloquer une, ça sera fait de manière de convergence collective globale. Mais ils disent qu'on est les bienvenus et qu'on les soutient, qu'il va y avoir des espaces d'accueil et qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas non plus hésiter, ils disent, en cas de destruction à reconstruire. Et à l'extérieur de la ZAD, ils disent appel à rassemblement et occupation le soir même sur les places des villes et devant les mairies et préfectures. Voilà, on espère que la grève générale va continuer et qu'ils n'auront plus de policiers à mettre le 9 avril pour virer la ZAD. Ça serait pas mal, ça.
Ça serait pas mal. Alors, par ailleurs, on sait un peu forcément, si on suit un peu, qu'à la ZAD, en ce moment, les choses se passent pas très bien entre des gens qui, d'un côté, trouvent que maintenant, il faudrait arriver à une autre phase de la lutte et voir comment faire en sorte de rendre pérenne l'endroit, enfin, ou la présence de ceux qu'on appelle les zadistes sur l'endroit, et d'autres qui trouvent qu'il faut continuer la lutte dans tous les cas. L'appel en question, il y a plein de textes qui circulent très très vite en ce moment sur Indie Media Nantes en particulier, mais l'appel en question a l'air d'être un petit peu unanime, c'est-à-dire que tout le monde trouve que si jamais il y a quoi que ce soit qui ressemble à une expulsion qui se met en route, il ne sera plus question de savoir qui est engueulé avec qui ou quoi. La réponse devra être complètement unitaire. Et pour le coup, elle sera unitaire.
Non, vas-y, c'est bon. Et ben, ce Canu Info touche à sa fin, mais on va finir par un petit point. C'est pas sorcier. On vous en a déjà parlé il y a quelques semaines. Depuis janvier, les horloges reliées au secteur et sans pile, par exemple les horloges de four ou les radios réveil branchées au secteur, prenaient du retard suite à une baisse du production électrique du Kosovo que la Serbie refusait de compenser, logique vu le passé compliqué et historique entre ces deux pays. Cette baisse de production perturbait les horloges. Quel est ?
Un retard monumental, non ?
Eh oui, tout à fait. Monumental de 6 minutes. Hein.
Ah, quand même ?
Ouais, quand même. Donc voilà, et en tout cas, c'était une histoire de fréquence. Hein. Vous savez, les réseaux électriques à 50 Hz, bref, voilà, je vais pas vous refaire le truc. Mais voilà, et en tout cas, il s'était retrouvé un tout petit peu en dessous, ce qui fait que voilà, les poseurs d'horloges prenaient du retard. Donc, comme je disais, hop, retard cumulé sur cette période 6 minutes. C'est pas mal. Bon, bah, si aujourd'hui vous aviez quelque chose comme 6 minutes d'avance, eh bien, c'est parce que tout est rentré dans l'ordre. Hein. Voilà, en gros, les pendules ont été remis à l'heure par les gestionnaires du réseau qui ont boosté la fréquence pendant un temps très court pour que les personnes qui n'avaient pas remis à l'heure au fur et à mesure, hein, c'est-à-dire les chômeurs et les RSAs, hein, qui n'ont rien à foutre des 6 minutes d'avance, de retard, tout ça. Voilà, et ben, en gros, ils ont boosté, hop, et ben, ceux qui avaient réglé, ils se retrouvent avec de l'avance. Ceux qui n'avaient rien touché, ils se retrouvent comme d'hab. Voilà. Et ben, rassurez-vous, hein, si vous n'êtes pas fous, c'est seulement le monde autour de vous. Voilà. Et ce info touche à sa fin avec 45 minutes d'avance. Hein, pas mal, ça fait longtemps.
15 minutes d'avance.
15 minutes d'avance, 19h45, tout à fait.
Et on ne peut pas vous laisser avec les bandes continues. On va vous mettre un petit CD.
Ah, moi, je pensais qu'on allait parler pendant 15 minutes pour rien dire. Hein, ça pourrait être sympa. Non,
ouais,
voilà.
Non.
On va vous mettre avec une compile de l'émission Intrinsèque, qui a lieu, c'est une émission de rap et qui a lieu, je ne sais pas quand, mais voilà. En tout cas, voilà.
Sur les ondes de Radio Canu dans la semaine, en tout cas, et une belle émission.
Voilà. Que vous pouvez retrouver sur le programme sur Radio Canu.
On ne peut pas vous mettre les bandes continues parce que là, des animateurs, des animatrices de la radio sont en train de les remplir de nouvelles musiques. Et donc, ce soir, à l'arrêt des émissions, à partir de minuit, vous allez avoir droit à de tout nouveaux morceaux sur les bandes continues de Radio Canu.
Ouais. Ça fourmille dans les studios.
Allez, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Et en tout cas, après les bandes continues, vous aurez le droit à Idée Noire à 20h, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonne soirée.
Ciao.
Wesh, 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 wesh,